Juges au chapitre 11. Alors je vous invite à prendre le livre des Juges au chapitre 11. On avait commencé une série que l'on termine ce matin. Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'était terrible parce que c'est un peuple libre, qui va profiter de cette liberté pour faire n'importe quoi. On a vu le cas de quelqu'un comme Samson qui n'a pas utilisé le don de Dieu pour le meilleur. Et on a vu quelqu'un comme Gédéon, pareil, qui avait beaucoup de mal à gérer cette liberté. On a vu Déborah aussi, qui elle, par contre, a su prendre ses responsabilités quand d'autres les fuyaient. Et aujourd'hui, on va terminer avec l'histoire de Jephté. Jephté. Je voudrais juste poser une question ce matin. Qui connaît l'histoire de Jephté? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Wow! Il y a du boulot. Vous êtes que 10% ce matin à connaître l'histoire de Jephté. Normal, j'ai pas entendu beaucoup de prédicateurs prêcher là-dessus. C'est un des textes les plus terribles de la Bible. Ça va être un juge en Israël dont on lit l'histoire au chapitre 11, au verset 1er. Je voudrais vous parler de ce matin du danger de grandir tout seul spirituellement. Le danger de grandir tout seul spirituellement. Juge 11, verset 1er. Jephté, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephté du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père car tu es le fils d'une autre femme ». Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Wow. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Et quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephté dans la région de Tob et lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Quel retournement de situation, hein. Et Jephté leur répondit « Vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras la tête de toute la population de Galaad. » Amen. On s'arrête là pour l'instant. Ça, c'est la première partie de la vie de Jephté. Et je voudrais parler de cet homme qui a grandi tout seul. Pourquoi il a grandi tout seul? Parce qu'il a été victime d'injustice. Et cette injustice, c'est une injustice qui date depuis le premier moment de la conception du premier morceau d'ADN, Jephté. Cette histoire commence avec un papa. Le papa de Jephté s'appelle Galaad. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Le pays s'appelle comment? Cette région du Jourdain s'appelle la région de Galaad. Ça veut dire que le nom du papa et le nom de la région, c'est le même. Pourquoi? Parce que Galaad était le patriarche de ce lieu et qu'il était tellement puissant. C'était le plus grand propriétaire terrien de cette région à l'est du Jourdain. En fait, c'est la Cisjordanie. Ça correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle les territoires de l'autre côté, les territoires est donc de Jérusalem, de l'autre côté du Jourdain. Et Galaad, propriétaire terrien, un homme puissant et influent, avait une double vie. Il avait une femme légitime et puis il avait une prostituée. Et cet homme avait suffisamment de désir pour cette prostituée, pour coucher avec elle, mais il n'avait pas suffisamment d'amour pour la demander en mariage. Il avait suffisamment de pulsion pour avoir envie de sexe avec elle, mais il n'avait pas assez d'amour pour bâtir un foyer, pour bâtir une famille ensemble. Et je me dis que le monde d'aujourd'hui est vraiment proche de celui des juges. Aujourd'hui, on a inventé, parce que notre monde est bien civilisé, on a tellement progressé dans la technique qu'on a inventé plein de systèmes pour pouvoir faire ce que l'on veut sans avoir les conséquences de ce que l'on a fait. Et un jour, quand petit Jephté est né, il est arrivé à la vie Et dès le début, son existence est un problème. Il est un problème pour maman, il est un problème pour le papa, il est un problème pour les frères et sœurs. Est-ce que ça vous est arrivé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu dans lequel votre vie, alors que vous étiez jeune, a été marquée par le rejet, par le fait que vous étiez de trop? Et c'est comme ça que naît Jephté, il vient dans une famille où dès le début, il est de trop. Vous savez, aujourd'hui, je pense que Jephté n'aurait pas existé. Jephté n'aurait pas existé parce que notre monde civilisé a inventé plein de systèmes pour que les Jephté qui posent problème n'existent pas. Il y a des inventions qui peuvent être très bien en tant que telles, mais qui sont utilisées pour en fait ne pas avoir les conséquences. Je suis pas contre, je vais être vrai ce matin parce que c'est des choses, vous en parlez librement avec vos collègues, vous en parlez librement dans votre famille, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas en parler librement aussi. Quelque chose comme le préservatif qui, en soi, est quelque chose de tout à fait correct. Je me dis quand même, ça nous préserve de quoi? Vous allez dire, des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, le premier avantage du préservatif, c'est qu'il te permet de coucher avec quelqu'un sans avoir la conséquence naturelle que serait un bébé. Alors aujourd'hui, on peut très bien coucher avec quelqu'un avec qui on ne s'est pas engagé, avec qui on n'a pas fait d'alliance, et de se dire, on va avoir le fun ensemble, mais on est prêt à coucher, mais on n'est pas prêt à élever un enfant. Je voudrais te dire quand même, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Si tu es prêt à coucher avec quelqu'un, ça veut dire que Dieu avait mis une loi naturelle, que lorsque deux êtres sont tellement attirés l'un par l'autre, qu'ils sont prêts à faire un, ça veut dire que ces deux êtres donnent la vie. Mais comme on veut être préservé de ce que l'on fait, on invente ça. Je ne suis pas contre ce système en tant que tel, mais je crois qu'il est quand même largement détourné pour ne pas avoir les conséquences de nos comportements. Et je voudrais aller plus loin. Il y avait une deuxième sécurité pour les problèmes que sont les Jephté. Comment on aurait conseillé la maman de Jephté aujourd'hui? Comment on aurait conseillé le papa? Qui aurait parlé et qui aurait dit quoi? Oh, je sais ce qu'on aurait dit. On serait allé voir, Galad, tu sais pas quoi, elle est enceinte, l'autre. Tu sais, la prostituée chez qui t'es allé. Fais-la avorter, là. Ça va être un problème, ce bébé. C'est un truc de trop, ça. On a vraiment progressé depuis le temps de Jephté. Vous voyez, on arrive à éliminer les témoins maintenant. Et c'est formidable, parce que quand vous éliminez le témoin, il n'y a plus de jugement derrière. Mais devant Dieu, un jour, on passera tous en jugement. Et le témoin, humainement, il y aura peut-être plus de témoins. Je pense même à Marie et Joseph. Lorsque Marie a appris qu'elle était enceinte, elle a dû avoir deux ou trois bonnes copines pour lui dire « cet enfant, c'est trop ». Et y a-t-il encore dans ce lieu aujourd'hui des personnes, des hommes et des femmes qui sont prêts à assumer leurs responsabilités et à dire « Seigneur, quelles que soient mes erreurs, je crois que si j'ai eu la force de commettre cette faute, je peux avoir le courage d'assumer et de faire tout mon possible par ta grâce pour compenser mon erreur. » Le problème, c'est que je ne sais pas si le papa de Jephté a essayé de compenser, mais je sais une chose, c'est que les frères de Jephté, lorsqu'on a commencé à parler argent, il n'y avait plus de frères. Je suis étonné dans les familles, lorsqu'on commence à parler d'héritage, combien les frères et les sœurs se révèlent être autres que ce que vous avez connu depuis la plus tendre enfance. Lorsqu'on parle d'argent, comment les caractères changent? Et là, quand il a été question d'héritage, wouh! Jephté, tu dégages! T'es pas le vrai. T'es pas le vrai fils de papa parce que t'es le fils d'une autre. Combien il y a de familles aujourd'hui? Peut-être que ça a été le cas de quelqu'un. Vos parents ne vous ont pas désiré. Pire que ça, vos frères et vos sœurs, les personnes qui étaient capables de vous aimer normalement, vous ont expulsé. En hébreu, c'est « ils expulsèrent Jephté ». Tu dégages. Tu dégages. Vous savez, il y en a qui... Il n'y a rien de pire que d'être expulsé par ses frères et sœurs. Je crois que ça vous arrive peut-être, certains a vécu ça. Tu es venu en métropole parce qu'on voulait plus de toi là où tu étais. La vérité, si tu es là aujourd'hui, dans cette salle, c'est peut-être parce qu'on voulait plus de toi à Kinshasa. La famille n'avait plus envie de toi en Guadeloupe, en Martinique, parce que tu étais au chômage, tu étais un boulet pour tout le monde. Et ils l'ont bien fait comprendre. Et je bénis Dieu parce que je crois que Dieu est le Dieu des retournements de situation. Et puis je vois l'histoire de Jephté, c'est qu'après quelques années, Jephté qui avait un appel. Jephté, il avait une force, c'était un vaillant guerrier. Il était détesté par les autres à cause de son origine, parce qu'il n'était pas comme eux tout en étant un demi-frère. Mais Jephté, un jour, ça s'est retourné. Et ce sont les mêmes qui l'ont expulsé, qui viennent voir Jephté et qui disent « S'il te plaît, Jephté, reviens. » Je suis content parce que Dieu est le Dieu vraiment des secondes chances. Vous savez que toutes les malédictions que les gens prononcent contre vous, ils pourront vous chasser, vous maudire, ils ne pourront jamais détruire l'appel que Dieu a pour vous. Jephté était appelé à être un vaillant guerrier, il le sera quoi qu'il en soit. Que les frères l'expulsent, le critiquent, le rejettent, le dégagent, ce que Dieu a appelé, c'est appelé. Et Dieu a prévu depuis toujours que cet enfant non désiré, cet enfant d'une prostituée et d'un homme qui n'assume pas, était prévu pour être un leader et un chef devant l'Éternel. Oui, j'ai aucune crainte, parce qu'il n'y a aucune malédiction que les autres prononcent sur ma vie qui peut m'affecter à partir du moment où je suis persuadé que Dieu a un appel qui est ferme pour moi. Vous savez, je parle de l'expulsion, je parle des exclusions. Je crois que les exclusions entre demi-frères, entre frères sont atroces. Et je vais aller, là j'ai parlé des expulsions ou des mises de côté dans une famille. Maintenant je voudrais te parler, il y a une famille dans laquelle on vit tous les jours, c'est l'église. Et je crois qu'il y a dans certaines églises, peut-être un jour un demi-frère qui t'a expulsé. Parce que tu avais un charisme naturel et que tu faisais de l'ombre à quelqu'un dans l'équipe. Et au service on t'a bien fait comprendre que tu étais trop. Peut-être un pasteur un jour a vécu ta présence comme une menace pour son ministère. Jephté, l'appel de Dieu pour toi, il est inscrit. Il est inscrit dans le livre. Ils pourront essayer de le décaler, le repousser. Je peux te dire une chose, en te faisant du mal, ils te font du bien. Parce que Jephté va devenir un grand leader en étant à l'opposé de ses frères. Maintenant, je voudrais aller plus loin ce matin. Vous êtes avec moi ? Je vais vous parler du danger qui guette Jephté. Parce que Jephté, comme toutes les personnes qui ont été rejetées, va développer un instinct de survie. Un instinct de survie. Ce matin, certaines personnes dans cette salle qui ne se sont pas senties désirées développent un instinct de survie. Vous apprenez à lutter par vos propres forces, vous apprenez... Ce que va faire Jephté tout de suite, c'est qu'il va, il va foncer, il va trouver un groupe, parce qu'il a un leadership naturel. Il va trouver un groupe qui va faire des raids avec lui. C'est ce que nous, on lit un petit peu plus tard dans le texte. Jephté s'enfuit loin de ses frères, elle se fixa dans la région de Tob. Bientôt, une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Vous savez, il y a un moment quelque chose d'étonnant. C'est qu'il est allé dans le pays de Tob. Le pays de Tob, ça veut dire que Jephté allait à la limite du pays de Dieu. À l'extrême limite, au nord-est. Juste à la limite entre le monde et le pays de Dieu. Moi, je vis Jephté d'une certaine façon parce que ça correspond pas mal à mon histoire aussi. Il y a des textes qui vous parlent parce que vous vivez ces choses-là. Moi, je me rappelle très bien que quand j'avais 13 ans, mes frères chrétiens ont prononcé une exclusion sur ma famille. Et du jour au lendemain, moi qui n'avais mangé que avec des frères, des frangins chrétiens, tous les midis je mangeais que avec des chrétiens. J'étais élevé avec des chrétiens, par des chrétiens, pour des chrétiens, juste chrétiens. Je ne connaissais personne d'autre. Du jour au lendemain, à partir du moment où l'exclusion a été prononcée dans l'église dans laquelle j'étais, les chrétiens m'ont dit « dégage ». Alors vous voyez, concrètement, ça se passe comment au self ? Ben, ça se passe que du jour au lendemain, vous mangez tout seul. Et vous dites, mais c'est pas possible, c'était des frères. Mais vous apprenez, alors c'est ce que j'ai fait pendant quelques midis, pendant 2 semaines. Je me rappelle très très bien dans ce collège, là, en 4e, ça fait bizarre. Hein. vous allez manger tout seul, vous prenez votre plateau repas et vous posez une table en face de personne et vous mangez votre plateau repas. Et vous savez ce que vous développez ? Vous développez un instinct de survie. Vous devenez un lutteur, quelqu'un qui se bat pour garder la vie. Et au bout de quelques semaines, j'ai rencontré des aventuriers. En fait, j'ai rencontré des gens, dans le texte en hébreu, c'est des vauriens. Mais en fait, pour Jephté, eh ben, il valait quelque chose. Parce que c'est les gens qui ne l'ont pas refusé, qui ne l'ont pas rejeté. Et c'est même des personnes, vous voyez ces aventuriers là, ce sont des personnes qui sont allées vers Jephté au moment où tout le monde avait quitté Jephté. Et je peux vous dire que des fois, lorsque c'est dans l'église que vous avez des problèmes et que c'est hors de l'église que vous trouvez des amis, eh ben vous tissez des liens où vous dites « cette personne-là, elle ne connaît pas Dieu, mais je lui dois quelque chose ». C'est au moment où les chrétiens, eux, me rejetaient, cette personne-là m'a accepté. Et je me rappelle très très bien, je peux vous donner le prénom de toutes ces personnes qui ont accepté de manger avec moi au self, alors qu'aucun chrétien n'a accepté de manger avec moi. Et je bénis Dieu pour ces aventuriers-là. Mais je vais aller plus loin. Parce qu'il y a quand même un danger à traîner beaucoup avec des aventuriers. Est-ce que c'est possible de voir le verset 23 ? Jephté, toute sa vie, a été à la limite. Avec ce qu'il a vécu, il a tellement été meurtri par ce qu'il a vécu, il a un vide dans son cœur. Comme toute personne qui a été rejetée ce matin, vous avez un vide dans votre cœur que vous allez traîner longtemps. Ce vide ne peut être rempli que par Dieu, sauf que votre cœur vous attire vers les personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont rejeté. Vous avez déjà remarqué ça ? Vous êtes incroyablement attiré par les personnes qui vous ont dit « dégage ». Vous n'êtes jamais rendu compte que dans les couples, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous quitte, qui vous abandonne, tout d'un coup, votre amour pour cette personne qui est la personne qui vous a fait le plus de mal, eh ben, il augmente. Parce que vous n'arrêtez pas de vouloir vous prouver « Mais non, je peux être aimé !» Je vais faire des efforts jusqu'à ce que tu reviennes. Et je pense que Jephté, même s'il a été blessé par ses frères, il attend qu'une seule chose. Il attend que le jour où ils disent « Reviens !» Et je pense que lorsque ses frères viennent vers lui et lui disent « Jephté, reviens, il soit un chef !» Jephté, il dit « Quoi ?» Vous m'avez demandé de partir, vous m'avez haï, et maintenant vous venez vers moi. C'est la belle-mère qui vous a fait la vie de misère, qui vous appelle au téléphone. Tu peux pas m'avancer 200 euros, s'il te plaît ? Là, vous dites, oh, elle a du culot, celle-là. Elle m'a fait une vie de misère quand j'avais 12 ans, et maintenant, elle m'a traité de rien, elle m'a dit que j'aurais jamais un boulot, que je serais toujours dans la galère. Et maintenant, elle m'appelle de Martinique pour me demander 200 euros. Alors vous voyez, si vous avez un trou dans votre cœur, eh ben vous allez avoir besoin de prouver à cette belle-mère. Et vous allez lui dire, quoi ? Avec ce que tu m'as fait, eh ben je vais t'envoyer les 200 euros, mais réalise bien que tu ne les mérites pas. Et ça, c'est quelque chose qui montre que vous n'avez pas encore guéri. Et Jephté va dire à ses demi-frères, là, il va leur dire, écoutez, je vais être votre chef là. Mais vous avez intérêt de vous mettre à genoux, là. Alors j'avance un peu plus loin et je vois au verset 23, regardez ce qui se passe. Jephté est devenu le leader. Les forces de survivants que tu as développées quand tu n'avais plus d'église. C'est ce moment-là où tu as été blessé, où tu t'es retrouvé tout seul dans ta maison, où tu n'avais que la télé et le culte sur Internet, tu as développé avec Dieu des techniques de survivor, des techniques de « j'essaye de tenir malgré tout contre moi ». Mais ces forces-là ne sont pas suffisantes pour tenir le jour où tu seras un vrai leader. Il faudra que tu développes une meilleure communion avec Dieu. Pas seulement une communion de celui qui survit, mais une communion de celui qui connaît Dieu. Regardez ce qui se passe. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple Israël, c'est Jephté qui parle au roi des Ammonites, il dit « Tu voudrais l'en déposséder ?» Le verset 24 nous dit, juste après, « Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu Kémoche t'a donné. Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir ?» Je suis étonné parce que Jephté parle et fait un dialogue avec les Ammonites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jephté, il a traîné toute son adolescence à la limite du pays des Ammonites. Il a appris la langue des Ammonites. Il a appris la culture des Ammonites. Et il a appris que le dieu des Ammonites s'appelle le dieu Kemosh. Et je voudrais avoir une image, là, s'il vous plaît. Parce que quand tu es rejeté par les chrétiens, tu es obligé d'être ouvert. Tu es obligé d'être ouvert sur toutes les autres religions. Et puis, tu es obligé d'essayer de les comprendre. Et le dieu Kemosh, il a un surnom que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le dieu Moloch. Molk, en araméen. C'est juste une image qui va s'afficher sur vos écrans. Ce dieu-là, c'est le dieu. Il n'est pas très sympathique, oui, effectivement, vous le voyez, il a. Mais il tend ses mains vers vous. Et ce dieu, son surnom, je vous dis, c'est Molk, Moloch, qui veut dire sacrifice. C'est le dieu du sacrifice. D'ailleurs, l'image d'après. Ce dieu Molk, il ouvrait les mains pour avaler vos enfants. Et c'était pour ça qu'on lui avait donné le nom de sacrifice. Parce que les Ammonites, les Amoréens, c'est le même peuple, jetaient leurs enfants nouveau-nés dans le feu pour pouvoir obtenir l'approbation du dieu Kemosh, Molk. Et le problème de Jephté, c'est qu'il a traîné tellement de temps à la limite que sa connaissance de Dieu, elle est trop insuffisante. À force de grandir tout seul spirituellement, arrête de me dire que tu peux tenir tout seul avec ta Bible, point barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez tous besoin de frères et sœurs. Vous avez tous besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu qui est avec un groupe de personnes qui vous attirent vers le bien. On peut tenir quelque temps sans église. On peut tenir quelque temps tout seul. Mais il y a un moment où, à force de traîner avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui connaissent un autre Dieu, vous allez avoir votre connaissance de Dieu. Elle est trop superficielle. Pour certains d'entre vous, vous allez faire les pires bêtises dans votre vie parce que votre connaissance de Dieu est trop superficielle. Regardez ce qui se passe. C'est dramatique. C'est la deuxième partie du texte à partir du verset 29. On va lire ensemble. Pour ceux qui n'ont jamais lu l'histoire de Jephté, accrochez-vous. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephté. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpa en Galaad. Et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel. Et il dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste, en sacrifice, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephté se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroer, Minit et jusqu'à la région d'Abel Kéramine. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites et ils furent ainsi affaiblis par les Israélites. Mais après la bataille, Jephté retourna chez lui à Mitzpa et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme de tambourin. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Et dès qu'il aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ma fille, tu m'accapes de chagrin !» Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. Et elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé le compte aux Ammonites, tes ennemis. Puis elle ajouta, je te demande qu'une seule chose. Accorde-moi un délai de 2 mois et j'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer, de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Jephté lui dit, va. Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint vers son père, auprès de son père, et il accomplit envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait. C'était à l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 40 jours pour célébrer la fille de Jephté, le Galadite. Atroce. Atroce. Alors, je voudrais qu'on puisse comprendre ce qui est incompréhensible. Et je crois qu'il y a une leçon de Dieu pour toute personne qui est dans cette salle ou qui écoute ce message ce matin. Dans cette horreur, il y a quelque chose à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, Jephté a une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Jephté a été chassé par ses frères. Mais vous voyez, en étant chassé par ses frères, il ne connaissait pas sa Bible. Parce que dans le livre de Lévitique au chapitre 18 et Lévitique 20, l'Éternel, Dieu, avait donné une consigne des plus nettes. Il avait dit, toute personne qui offrira un sacrifice humain est en abomination devant Dieu. Il dit, vous détruirez tout ce qui a trait au Dieu Kémosh. Vous ne laisserez rien de tout ça. C'est une abomination devant l'Éternel. Mais vous voyez comme Jephté a grandi à la limite avec des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Il a fini inconsciemment à intégrer dans sa foi une partie de la foi des autres qui est une folie. Et il fait un mélange dans sa tête. Sa conception de Dieu, donc premièrement, il a une mauvaise connaissance de Dieu. Deuxièmement, il a une fausse compréhension de la personnalité de Dieu. En fait, il a intégré, c'est étonnant parce que quand il parle au roi des Ammonites, il dit « Ton Dieu, Kémosh, t'a donné ton pays et mon Dieu m'a donné Israël. » C'est-à-dire qu'il se revendique. Vous voyez, il a une connaissance géographique de Dieu. En gros, il dit, c'est ma culture. Je suis né chrétien, je suis chrétien. Ma mère était catholique, mon père est catholique, je suis catholique. Ma maman était évangélique, mon papa était catholique, moi je suis chrétien. Chacun peut avoir une foi en Dieu qui est basée seulement sur ses origines. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas arriver devant Dieu en disant, j'ai une culture chrétienne. Parce qu'une religion n'apportera jamais la vie. Une religion n'apportera jamais la vie. Le problème de Jephté, c'est qu'il a grandi tellement seul, il a été tellement isolé, qu'il n'a pas une connaissance de Dieu comme un père. Son père humain était défaillant, et il n'a jamais compris qui était Dieu. D'ailleurs, c'est quelque chose de terrible, c'est que quand il va faire son vœu, c'est quelques minutes après que l'Esprit de l'Éternel soit tombé sur lui. Ça ne vous a pas choqué, ça? Comment Jephté peut être rempli de l'Esprit de Dieu à un verset, et le verset d'après, quelques minutes plus tard, il prononce un vœu inspiré d'un esprit démoniaque? Vous êtes rendu compte de ça? C'est exactement pareil que l'apôtre Pierre, lorsque Pierre dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous avons cru et nous avons connu Jésus, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Pierre, tu es heureux parce que ces paroles, ce n'est pas toi qui les as inventées, c'est le Dieu, c'est mon Père qui les a soufflées. » Simon Pierre s'emballe, il est super heureux. Quelques minutes après, Jésus dit, « Je vais aller jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Et Simon Pierre lui dit, « Que cela ne t'arrive point, Seigneur. On va faire tout ce qu'on peut, on va empêcher ça. » Arrière de moi, Simon. Parce que c'est démoniaque ce que tu es en train de dire. En quelques minutes d'intervalle, voilà ce que je voudrais vous dire. Si votre relation avec Dieu n'est qu'une culture, une religion, vous allez mélanger les choses. Et dans vos décisions et quand vous allez prononcer des vœux, vous allez croire faire plaisir à Dieu, mais vous n'allez pas du tout faire plaisir à Dieu. Et l'horreur dans cette histoire, c'est que Jephté, pourquoi il fait ce vœu? Pourquoi il veut faire un sacrifice humain? Parce qu'il a tellement été élevé à se débrouiller tout seul. Pour lui, tout ce qu'il a fait, ça lui a coûté. Lorsqu'il a dû partir, ça lui a coûté. Lorsqu'il a dû recruter sa troupe, ça lui a coûté. Lorsqu'il a dû manger pour remplir le frigo, ça lui a coûté. Il a dû se débrouiller pour tout. Donc maintenant, quand Dieu est avec lui et que Dieu lui dit « je vais te bénir », pour lui, il dit « oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Combien je dois payer ?» Il a tellement été habitué à s'en sortir par ses propres forces, il a grandi tout seul, que du coup, et c'est le problème de quelqu'un ce matin qui a une relation défaillante avec Dieu, tout seul, tu t'es toujours sorti tout seul, c'est tout seul que tu as grandi. Et du coup, maintenant, quand tu vois Dieu, tu as l'impression qu'il faut payer Dieu pour que tu aies quelque chose. Et c'est le gros problème de Jephté, c'est qu'il dit « Dieu, qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois sacrifier pour que tu m'aimes un peu? Qu'est-ce que je dois payer? Comment je peux mériter ton approbation ?» Et c'est l'horreur parce que du coup, il va intégrer une religion qui est une religion tordue. Il va vouloir bien faire. C'est un pharisien. C'est un pharisien quand il fait ça. Il se dit, si je me fais du mal, alors je serai plus béni. Il y a quelque chose de tordu dans toutes les religions. Quelque chose de tordu dans la religion juive, quelque chose de tordu dans l'islam, quelque chose de tordu dans la religion catholique, quelque chose de tordu chez les protestants, quelque chose de tordu chez les évangéliques. Toutes les religions ont quelque chose de tordu. Quand vous voyez ce qui se passe dans les prêtres catholiques qui se flagellaient, et comme on voit des fois aux Philippines, qui sont obligés de s'arracher la peau du dos pour dire « Dieu va nous aimer du coup ». Quand vous voyez l'islam où les gens ils doivent se mettre lorsqu'ils seront au paradis d'après la théologie de l'islam, pour toute prière qu'ils n'auront pas faite sur la terre, ils devront se mettre contre une pierre brûlante qui va leur brûler le front. Vous voyez, il y a un problème là-dedans. C'est que les hommes, dans leur religion, se disent « Oh Dieu, comment on peut faire pour avoir ton approbation ? Qu'est-ce qu'on doit souffrir ? Quel est le sacrifice ?» Il a une religion du Dieu du sacrifice. C'est-à-dire que Dieu n'aime que les sacrifices dans sa tête. Arrête d'acheter Dieu. Arrête de dire aujourd'hui « Ma vie va pas bien parce que j'en fais pas assez, je donne pas assez, je fais pas ceci. » Dieu veut que tu le connaisses comme un père avant que tu le connaisses comme un débiteur, comme un créancier. Dieu est fatigué de ce que tu vas le voir comme tu viens voir ton banquier. Dieu n'est pas ton banquier. Dieu n'est pas ton patron. Dieu est ton père. Mais seulement Jephté, t'as jamais compris ce qu'était un père. Alors regarde ce qui va se passer. Eh bien, tu vas reproduire une religion de destruction sur ta famille. C'est-à-dire que tu te détruis toi-même. Vous croyez que Jephté, quand il voit sa fille qui arrive en dansant, mais il est massacré cet homme. C'est sa seule fille, il n'a pas d'autre fils, il n'a pas de fille autre qu'elle. Et là, il s'arrache l'événement, il dit « Mais pourquoi ?» Vous savez le plus terrible là-dedans, c'est que vous vous auto-détruisez. Moi, j'ai vu des personnes tout à fait évangéliques, hein, qui avaient une vraie connaissance de Dieu, qui n'étaient jamais heureux, jamais heureuses dans leur vie, parce qu'ils disaient « j'en fais pas assez pour Dieu ». Tu vas prier 20 minutes, tu vas dire « tant que je n'ai pas prié une heure, c'est nul ». J'ai lu un peu ma Bible, mais tant que je n'ai pas lu assez, c'est nul. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ah, comment je vais faire? Si j'arrive à améliorer un petit peu mon vocabulaire, alors Dieu va m'aimer mieux. Mais tu n'as rien compris, oh. C'est une religion que tu as. Alors je termine ce matin avec cette jeune fille. Comment elle s'appelle? On n'a pas son nom. On n'a pas son nom. Cette jeune fille, elle est étonnante. Parce qu'elle vient voir cet homme qui est Jephté, ce papa qu'elle aime. Pourquoi elle aime Jephté? Parce que ça ne s'explique pas. Elle a quelque chose qui fait qu'elle aime cet homme-là. Et elle court vers lui avec les bras ouverts. Et elle va à la boucherie, en fait. C'est ça qui est terrible dans ce texte. C'est qu'elle est en train de danser vers quelqu'un qui va la mettre à mort. Et ça me fait penser à Jésus. Et cette fille, c'est une image de Jésus. Qui, lorsqu'il vient, lorsqu'il quitte la maison là-haut et qu'il vient sur la terre, il vient à la boucherie. Et Ésaïe 53 nous dit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été muet, il n'a rien dit. Cette jeune fille, elle ne va rien dire. Hein. Jésus va dire simplement, donne-moi 33 ans pour dire au monde que Dieu n'est pas le Dieu des commandements comme ils ont entendu. Voici un commandement nouveau je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé. Il a 33 ans. Cette jeune fille va avoir 2 mois pour pleurer là-haut. dans la montagne avec ses copines. 33 ans, Jésus est venu et il est allé comme un agneau à la boucherie devant ceux qui allaient le tuer. Pourquoi ? Mais ça ne s'explique pas. C'est parce que Jésus aimait l'homme. Cet homme qui est Jephté. Alors je me dis, mais qui est Jephté ? Est-ce que Jephté ressemble à Dieu ? Et vous voyez, il y a quelque chose de très tordu. C'est que si vous n'avez rien compris ce matin, vous dites, ben, en fait, Dieu, ben, c'est pareil. Non. Oh. Et j'étais presque à penser ça lorsque je préparais ce message. Je me dis, mais c'est pas possible, Dieu. Tu peux pas être cette fille, si c'est Jésus, tu peux pas être le symbole de Jephté. Et tout d'un coup, j'ai une révélation. Et heureusement qu'on en a de temps en temps quand on est pasteur, sinon on dirait beaucoup de bêtises. Et tout d'un coup, j'ai eu un mot qui a fait tic dans ma tête. Vous connaissez le Fils de Dieu ? Le Fils de Dieu, c'est Jésus, d'accord ? Et en fait, dans les prières, quand vous priez, pour certains, quand je vous entends prier, « Seigneur, tu es le Fils de Dieu ! Tu es le Fils de... » J'entends pas grand monde dire « le Fils de l'homme ». Vous n'êtes jamais dit pourquoi, dans l'Évangile, on dit presque aussi souvent à propos de Jésus qu'il est le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il accepte de se mettre entre les mains du Père humain. Il accepte de se mettre entre les mains des pères religieux de l'époque que sont les pharisiens et les sadducéens. Il accepte de se mettre en face du Père humain qui correspond à Ponce Pilate. Il accepte de se mettre entre les mains de ceux qui vont dire « il faut qu'il meure, il faut qu'il meure » et qui vont accomplir le vœu. Arrêtez les simplifications, ne pensez pas que les pharisiens n'aimaient pas Dieu. Les pharisiens, ils aimaient Dieu. Les pharisiens, avant de tuer Jésus, aimaient Dieu. Et je vais même dire quelque chose de pire, comme Jephté, alors qu'il prononçait la sentence de mort dans le Sanhédrin et qu'il votait à main levée, il disait « la mort ». Et il pensait accomplir un vœu pour Dieu. Est-ce que vous comprenez que l'apôtre Paul était un vrai personne convaincue par Dieu lorsqu'il mettait à mort les chrétiens et qu'il allait de maison en maison, qu'il prenait les femmes et qu'il les mettait en prison, qu'il prenait les maris et qu'il les mettait à mort, qu'il les lapidait. Il pensait faire plaisir à Dieu. Parce qu'une religion, sans une communion, elle est mortelle. Et que tu pourras donner n'importe quelle religion à tes enfants. Tu pourras lui dire, ah, attention, il faut prier une fois. Il faut dire merci avant de manger. Il ne faut pas dire de gros mots. Il faut faire ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Mais s'il n'a pas une relation avec Dieu, ça sera mortel dans sa vie. Parce qu'il va croire qu'il est bien. Et il va croire que sa religion va le sauver. Et peut-être en tant que maman, tu vas dire, ah, j'ai un enfant, il est bien élevé. Ça ne sert à rien d'être bien élevé si tu meurs sans connaître Dieu. Ça ne sert à rien d'être bien élevé si au ciel, tu n'as pas compris que Dieu est ton Père. Cette fille, elle va courir, c'est terrible quand même. Elle va courir en dansant. J'ai demandé aux musiciens de venir sur le devant et... Vous savez, pendant longtemps, j'ai eu un problème avec cette vision de Dieu. Parce que moi, j'ai grandi tout seul quand même en partie. Par rapport aux chrétiens, il m'a fallu plusieurs années avant que je me fasse réaccepter par un groupe de chrétiens. Et comme toutes les personnes qui ont grandi un peu seules, et qui avaient une vision de Dieu, d'un Dieu dur et légaliste, j'avais du mal, et j'ai encore du mal, à considérer que Dieu m'aime pour rien, sans que je fasse rien, juste parce qu'il est Dieu et que je suis son fils. Vous voyez, dans ma tête, j'essaye toujours de faire quelque chose pour que Dieu m'aime un peu plus. Quand je suis allé la première fois dans une église un peu différente de celle dont je partais, dans laquelle j'avais été exclu, j'ai entendu un chant, mais j'ai trouvé ça mais nul. C'est un chant de Ternisien qui disait « On entend loin de la musique et des danses, des chants heureux et des cris de réjouissance. » On va danser jusqu'au petit matin. Je me suis dit, ils n'ont rien compris à Dieu, ces gens-là. Ils ont cru que Dieu, c'est une boîte de nuit. Vous voyez, parce que dans ma relation avec Dieu, on vient vers Dieu qu'avec un sacrifice. Et j'arrivais pas à comprendre que Dieu puisse m'aimer juste qu'on fasse la fête tous ensemble. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été dans un culte personnel avec Dieu sans culpabilité? Vous êtes silencieux ce matin. Ça fait combien de temps que tu allais ouvrir ta Bible, non pas par devoir, mais juste pour dire « Papa, viens, on va parler ». Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à l'église, non pas par devoir, parce que c'était l'heure d'aller au culte, mais juste pour dire « Ah Dieu, mon Père, on va passer un temps ensemble, on va louer, on va danser, on va être bien ». Tu sais pourquoi? Parce que tu es un légaliste profond. Et au fond de toi-même, tu as tellement grandi seul que ta conception de Dieu, elle est légèrement faussée. Mais le légèrement faussé peut détruire ta vie et peut détruire la vie des autres parce que tu es un enfant de la loi que tu connais mal en plus. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit, si vous appliquez la dîme de la menthe, du cumin, vous essayez de faire... Et en fait, vous vous rendez pas compte que vous n'appliquez pas la loi de Dieu. On va fermer les yeux ensemble ce matin. Voyez cette fille-là, dont le prénom n'est pas mentionné. Eh bien, je pense là, dans mon cœur, mais vous pouvez dire que ce n'est pas spirituel, je ne sais pas, mais... Moi, je crois avoir trouvé son prénom. Vous savez comment elle s'appelle, cette jeune fille? Elle s'appelle Grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vient vers toi, humain comme tu es, avec tes vœux et ta religion, et qui ouvre les bras et qui dit « S'il te plaît, prends-moi dans tes bras. » Et cette grâce, c'est Jésus. C'est Jésus à la croix qui t'aime de façon inconditionnelle, qui est mort pour toi alors que tu ne mérites pas, qui meurt pour tes vœux, ta perception du péché et ton incapacité à tenir tes promesses. Ah, cours vers Dieu en cet instant. Est-ce que quelqu'un est prêt à ouvrir son cœur à Dieu? Juste à faire tomber tout ce qui est dur en lui, parce que tu as grandi tout seul.
Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix. Quand dans mon cœur, ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent, tu me libères, et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur.
Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur comme un enfant, Seigneur. Je ne veux pas être dur ce matin.
Tu es merveilleux pour moi.
La grâce de Dieu.
Tu me réponds.
Grâce ce matin. Je vous en supplie, ne tuez pas grâce. C'est étonnant comment les gens qui ont grandi tout seuls ont du mal à accepter la grâce. Demande à Dieu son aide ce matin. Parce que c'est que le travail du Saint-Esprit, tu vois. Jephté, lorsqu'il fait un vœu humain, il se plante complètement. Lorsqu'il décide humainement, il se plante, même quand il veut faire bien. Faut que ce soit le Saint-Esprit qui inspire tes vœux. Seigneur, fais-moi comprendre qui tu es. Dieu, fais-moi comprendre qui tu es. Ce matin, qu'il n'y a rien de mieux que de connaître Jésus. Je suis désolé, on va prolonger un tout petit peu parce que je voudrais donner à tous les personnes qui ont un problème avec la grâce, comme moi d'ailleurs, j'en fais partie, de pouvoir dire Seigneur, te connaître, il n'y a rien de meilleur. Seigneur, je ne veux pas connaître simplement ce que je dois faire, je veux connaître une relation avec toi renouvelée. Je veux vivre à mon culte personnel avec des cris de joie. Je veux aller vers ma Bible avec le désir tout simplement d'apprendre de toi. Je veux arrêter d'être le religieux qui va à l'église par devoir. Je veux y aller avec l'enthousiasme d'un enfant. Te connaître, Jésus, n'est rien de meilleur. Toi, mon roi, mon père, ma justice, ma sanctification, ma perfection. Tu vois, ouh, j'aime ça, Seigneur.
Seigneur Jésus. ce qui m'était cher pour construire ma vie. Utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère
te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime,
mon plus cher.
Te connaître.
Te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Ah, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur.
Jésus,
je t'aime.
Te connaître, Jésus.
Juste vos voix.
Te connaître, oh mon Dieu.
Rien de
vous avez compris ça, vous avez compris qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Puisque d'autres ont besoin d'être bénis dans ce lieu, on va devoir arrêter là maintenant.